France Culture.
Petite Ukraine.
Ça a commencé par des échanges sur la messagerie Telegram. On parlait d'une émission qui serait comme un instantané de leur vie. Ils et elles sont suspendus entre deux mondes, celui de la guerre et celui de la paix, entre deux pays. La France qui les accueille dans le cadre de la protection temporaire accordée depuis l'invasion à grande échelle par la Russie de l'Ukraine le 24 février 2022, et l'Ukraine, leur pays en guerre. Entre deux possibles, celui de la vie en exil, celui de la mort potentielle en Ukraine. Comme tous les jeunes de leur âge, ils et elles s'élancent. Leur élan est riche et lourd, d'une expérience limite. Ils sont outside, hors d'Ukraine. Partis adolescents, ils sont devenus de jeunes adultes francophones, déjà français, toujours ukrainiens. Et comme tous les jeunes de leur âge, ils s'interrogent entre les langues, les frontières, les possibles.
Єдине, що дає мені хоч якусь надію, це не вічне. Навіть якщо я так хочу, щоб все зупинилося, ось навіть зараз. Я понад усе хочу зникнути, щоб не проживати ще один день жаху. Не їм, не сплю. Це природна реакція тіла на стрес. Це мило назвати війну стресом.
Контакт!
Терпи, терпець тебе шліфує, сталив твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з неволі не врятує, ніхто не зіб'є з власної тропи.
Le 28 février 2022, région de Khmelnytskyi, après une séance avec psychothérapeute. Tout ce qui me donne de l'espoir, c'est que rien n'est éternel. Même si j'ai tellement envie que tout s'arrête là, tout de suite. J'ai tellement envie de disparaître pour ne pas avoir à vivre une journée de plus dans cette horreur. Je ne mange pas, je ne dors pas, mais bon, on m'a dit « ton corps et ton esprit réagissent au stress ». C'est gentil d'avoir appelé la guerre le stress. Pour faire quelque chose, juste pour faire quelque chose, sortir, dessiner, faire un peu d'exercice. Oui, si. Cela paraît tellement absurde dessiner alors que la guerre est là. On voit les missiles passer, mais on continue la balade. Chaos. Absurde. D'abord, je me suis réveillée vers 4h50 et cela m'a embêtée car j'avais un contrôle de littérature le matin et je me suis tournée vers le mur. Une, deux, trois, des explosions. Peut-être c'est ce que je crois. Je sens qu'il n'y aura pas de contrôle. Pourquoi suis-je la seule à les avoir entendues? Que faire? Pourquoi elle dort? Maman, pourquoi tout le monde part? Il n'y avait aucune information officielle. Pourtant, tout le monde comprenait tout. C'est la guerre.
Contact! Poussez! 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 Poussez!
Je suis né dans la ville qui est occupée depuis 2014. Alors je savais toujours que la guerre se déroule proche de nous. Mais quand on est ado, je n'ai pas vraiment pensé à ça chaque jour. Par exemple, en 2021. Mais depuis le 24 février 2022, j'ai compris que définitivement, nous ne sommes plus dans la sécurité. tout est changé, à un moment. On commence notre exercice depuis ce véhicule improvisé. On fait le dessin, on prend la place. Après, on fait le marché en colonne, en trois, jusqu'à l'ennemi. Et après, on fait le tir l'un après l'un. On change les positions. Quand le premier de nous, il fait quelques tirs, il ne peut pas prolonger cette action. Parce qu'on imagine qu'il son magasin est capable de 30 balles ou moins. On reprend. Et c'est le deuxième qui commence à tirer. Et comme ça, on arrive jusqu'à notre ennemi.
Mais au début de la guerre, on a tous pensé que ça va pas vraiment prendre beaucoup de temps. On a tous pensé que on est là et pour 2-3 semaines, oui, on va revenir chez nous. La réalité nous dictait l'autre chose. Moi, j'ai venu la première fois en France en 2022. Et puis en été, moi, j'ai parti en Ukraine pour finaliser mes études à l'école. Quand j'ai fini ça, oui, j'ai venu ici en 2023 pour faire mes études ici. Si on n'est pas occupé, oui, on peut venir ici. En général, c'est... Je pense que une fois par quelques semaines, par mois.
J'ai compris que l'écriture, c'est quelque chose qui fait partie de moi et dont je ne peux pas vraiment me priver pour longtemps. Et j'ai des choses à dire, voilà.
Alice, Ivana, Sonia... Sonia.
Petite Ukraina. Johanna Gruzinska. Franck Lilin.
Platon, Miroslav, Nazar, Ilia, Sofia. Olena, Svitlana, Tamara, Monsieur Debaker, Monsieur Legrand, Madame von Schramm, Yakif, Ola, Victoria, Mikola, Valentina, Eric, Maeva, Jordan, Julie, Juline, Pruny, Célia, Charlotte, Camille, Ruben Tolmachov, Olena Solovey, Oksana Leniv,
je colle les papiers avec le portrait du président de la Russie, Vladimir Poutine, pour s'entraîner.
J'entraîne avec le réplique, c'est le M4. Je l'ai acheté pour s'entraîner mieux, pas avec le réplique lié. C'est combien? C'est 9 mois. Quelque chose comme, oui, quelque chose comme ça.
Oui, 9 mois. Vous pouvez me faire magasin. Полностью.
Посок.
Да, хай наберет.
Je pense qu'on peut être présenté comme les groupes des étudiants ukrainiens. Juste. On est les amis pendant 2 ans minimum. On se trouvait à Paris. Dans le 2022, et c'était très important. C'est intéressant que, en vivant en Ukraine, on ne pourrait pas se rencontrer, mais ici, les gens de régions différentes s'engagent pour faire quelque chose, pour vivre ensemble, pour être amis ou pour s'entraîner.
День сьомий, четвер, 3 березня 2022 року. Дні стали одноманітними. На вулиці холодно. Занять мало. Я питаю, чим я можу допомогти, в основному нічим. Сьогодні ходили з Яшею до Миколи Григоровича. Тато захворів, лежить, прийти не може. Пройшло 40 хвилин, і нам привезли машиною купу продуктів. Консервація, овочі в ящиках, сало, яйця, навіть цукор.
І pour moi, je crois que le temps des paix sont révolus. Je parle pas juste des contextes de notre guerre. Juste regarder ce qui se passe autour de nous. Les tensions mondiales ne font qu'augmenter de manière exponentielle.
J'ai raconté un peu ma journée qui était le 7e jour de la guerre. Ce n'est pas un moment remarquable, mais je l'ai pris justement parce que c'était un des jours qui était encore assez calme de ma vie. Comme il y avait des bombardements, mais on n'était pas encore occupés. J'essayais de trouver une activité qui m'aiderait à me sentir mieux et me sentir occupée. On était constamment en peur. Et justement, dans ce passage, je raconte que je cherche des moyens à apprendre quelque chose. J'ai appris un poème d'un poète ukrainien qui m'a beaucoup aidé et qui me donnait un peu de réconfort. Mais je dis que tout est bizarre et tout est très difficile et j'essaye de retrouver les moyens à m'en sortir. Mais pour l'instant, je ne comprends pas ce qui se passe. Mes amis sont soit à l'étranger, soit à l'ouest de l'Ukraine et je me sens séparée. Je suis contente qu'ils soient en sécurité, mais en même temps, je suis triste parce que je ne sais pas quand je pourrai les voir la prochaine fois.
La vie a changé vraiment beaucoup. Tu ne penses pas à l'avenir, tu penses qu'est-ce que je dois faire maintenant, comment je peux protéger moi, comment je peux protéger ma famille. Et maintenant, je n'ai tiré une leçon de vie très forte, que tout ira toujours mal et tout sera toujours différent de ce que vous vouliez. Pour moi, le monde est injuste et d'une manière ou d'autre, je prépare toujours un pire.
Je m'appelle Maria et je viens de la capitale d'Ukraine, de Kiev. Et j'ai dû quitter l'Ukraine en mars 2022, juste un mois après que la guerre ait commencé. Qui a fait beaucoup de malheur à notre famille parce que quand on était à Kiev, c'était une ville qui était bombardée pendant les premiers jours de la guerre. À cause de ça, on a déménagé à notre maison d'été qui se trouve à peu près à 50 km de la capitale. Quand on est arrivé à notre village, il n'y avait pas tout de suite d'occupation. Il y avait juste des conditions qui étaient déjà aggravé dans ce village parce qu'il n'y avait pas souvent d'électricité. Il y avait l'heure de couvre-feu qui était 17h du soir, donc c'était très très tôt. Et on n'avait pas de lumière, on utilisait des bougies parce que les Russes ont pris beaucoup de ressources. Ils ont coupé l'électricité, après même le réseau mobile. Donc il y avait des conditions très difficiles. Il n'y avait pas de supermarché quand c'était en village, mais il n'y avait pas d'endroit où on pouvait acheter à manger parce que tout était vide en fait, même les pharmacies étaient très vides. Ils n'avaient pas de ressources pour nous et on était aidés par nos voisins. On entendait les bombardements chaque jour, jour et nuit, et c'était épouvantable parce qu'on était tous très horrifiés. Je sentais la peur chaque jour, chaque heure, peut-être chaque minute. Et j'étais avec ma petite sœur qui avait juste 6 ans et mon frère qui avait 13 ans. Et moi j'avais 16 ans à peine parce que mon anniversaire c'est 18 février, 6 jours avant que la guerre ait commencé. Après, les soldats russes sont venus, ils occupaient des maisons des Ukrainiens, ils ont occupé la maison de pasteur. Ils essayaient de paraître gentils. Ils proposaient du sucre, ils proposaient de la nourriture pour qu'on se sente à sa place et on se sente en sécurité. Mais c'était pas vrai parce que chaque instant, je sentais de la peur et c'était terrible. Et moi, j'étais très inquiète parce que dans mon téléphone, j'avais beaucoup de posts, des messages un peu patriotes parce que j'étais scout en Ukraine et j'avais des photos où je porte l'uniforme ukrainien. Et ma mère m'a dit, tant qu'on n'a pas pris ton téléphone, supprime tout ce que tu as parce que sinon, ça va nous apporter du malheur. Alors, j'ai supprimé ce que j'avais, tout ce que pouvait rappeler que je suis ukrainienne et que j'aime l'Ukraine. Parce qu'on avait peur qu'ils vont faire des choses contre nous, parce que nous sommes ukrainiens.
Le 5 mars 2022, région de Хмельницький. Минуле перестало мати значення. Воно абсолютно перестало мене хвилювати рівно тоді, коли я зрозуміла, що майбутнього може не бути. Бо який сенс залишатися з минулим дрантям в душі, якщо це буде останнє, про що ти подумаєш? Шкода останньої миті, в яку ти цінуватимеш, наскільки правильно чи ні ти висловилась 3 дні тому. Наскільки добре чи погано вчинила з якоюсь людиною, наскільки добре чи погано розумієш себе і чи могла щось відстояти. Все втратило сенс.
On parlait russe avec eux. Ils ont dit qu'on parle très bien russe et il n'y a rien à craindre, mais ça nous a pas aidé parce que on était dans le sous-sol tout le temps à cause des bombardements et chaque jour je pensais que je vais mourir. Et je m'inquiétais beaucoup, beaucoup pour ma petite sœur et pour ma famille tout entière. On était 6, ma grand-mère, ma mère, mon père, mon frère et moi, et ma sœur. C'était très difficile. On était sans lumière, il n'y avait même pas de bougie. On était juste dans l'obscurité à attendre quelque chose qui va venir et nous sauver.
Le passé n'a plus aucun sens. J'ai cessé de m'en préoccuper au moment où j'ai compris qu'il n'y aurait peut-être pas d'avenir. À quoi bon porter tout ce poids du passé? Pourquoi y penser si cela peut être la dernière chose à laquelle on réfléchira avant qu'une bombe n'atterrisse juste ici? L'ancien ordre est détruit, le nouvel ordre n'est pas encore établi, donc il ne reste que le chaos et l'indifférence. Je m'appelle Uliana Scheiget, j'ai 19 ans et je viens de Kiev. Ce qui me fait peur, c'est que je n'y peux vraiment rien. J'ai perdu tout contrôle sur ma vie et sur les choses auxquelles je n'avais jamais eu le contrôle. J'ai très peur de l'admettre. Alors j'attends. J'attends l'aube, dans tous les sens du terme, car l'absence de vision de la vie, c'est aussi une vision de la vie.
Pour me sentir mieux, je pensais à mon passé et à mes jours avec mes amis, avec tous les gens que je connais, avec ma famille qui reste à Kiev et tout le monde que je vais retrouver, si ça serait possible. On prenait des oreillers et on les posait sur nos têtes pour augmenter nos chances à survie. Mais parfois, on ne pouvait même pas parler à cause des bombardements parce que c'était impossible. Et souvent, c'était juste rien, juste pas de conversation parce qu'on avait peur que quelqu'un va nous entendre. Et notre père nous a interdit de rire. C'était un danger et on ne voulait pas que les Russes pensent qu'on est ravis de quelque chose ou qu'on fait des blagues d'eux ou de quelque chose comme ça. On avait très peur de s'exprimer. Donc on parlait très très doucement. Notre père nous a interdit de parler fort et de rire, même si je voulais rire pour juste me sentir mieux, parce que c'était très difficile. On lisait les livres parfois, le matin quand on pouvait ouvrir un peu. Ça s'appelle pas la fenêtre, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de lumière, donc on ne pouvait rien faire. Je lisais avec ma mère la Bible, même si nous ne sommes pas croyantes, juste parce que c'était un livre qui m'intéressait et je cherchais un moyen à me distraire. Et je lisais également Shakespeare, Mais c'était vraiment des très rares moments parce qu'on n'avait pas la lumière la plupart du temps. Je lisais Hamlet. Et ça m'a beaucoup plu, ça m'a aidé à me distraire. Même si c'était des rares moments, malheureusement, ça me soutenait beaucoup. Et c'est pour ça que ce livre est assez important pour moi. Même je n'ai pas arrivé à le finir parce que le 20 mars, on était libérés et j'ai laissé ce livre dans le sous-sol.
Розхилює жита, пролітають стомлені літа.
Le 24 février 2023, à Paris. On me demande ce que c'est la guerre. Si seulement j'avais une réponse. C'est peut-être avoir tout eu et ne plus avoir rien. Cela fait un an que j'ai perdu ma vie et que je l'ai retrouvée, reconstruite depuis zéro. Ensuite, je ne sais pas à quel point c'est réussi ni à quel point j'aurais voulu que ce soit comme ça. Un an de souffrance, une tragédie qui dure un an et on a souvent l'impression que le monde fait tout pour que rien ne s'arrête. On est parti pour 2 semaines, cela fait un an. Je ne sais pas si cela s'arrêtera un jour, si je verrai le jour où cela prendra fin. J'ai l'impression que tout va bien. Je ne vis pas sous les bombes, contrairement à des millions d'Ukrainiens. J'aurais sans doute dû être plus joyeuse, car les gens pensent que je ne suis pas reconnaissante pour tout ce que j'ai. Mais je ne dois rien à personne en même temps. C'est une douleur très profonde. Cela fait un an que je vis une guerre, physique et mentale, et la guerre m'accompagnera tout au long de ma vie.
J'ai dû abandonner la partie de ma famille en Ukraine. J'ai mon grand frère qui a 41 ans maintenant et il n'était pas autorisé de quitter l'Ukraine parce qu'à cause de la guerre, depuis les premiers jours de la guerre, il y avait pas mal de restrictions imposées par la loi martiale pour limiter des hommes pour partir de l'Ukraine. Moi, j'ai pu partir parce qu'en fait, il y avait quelques petites exceptions. Plutôt pour les étudiants qui étaient admis pour poursuivre ses études en étranger. Donc j'ai reçu tous mes documents officiels militaires pour être autorisé. Et c'était une exception qui existait pendant, je ne sais pas, 9 mois, 8 mois depuis le début de la guerre. Donc maintenant, c'est plus possible de partir de l'Ukraine pour faire les études en étranger. Mais à l'époque, pour moi, c'était possible, comme pour tous les gens qui étaient admis pour étudier dehors de l'Ukraine. Il n'y a pas de restriction pour les femmes, donc ma mère, pas de problème, pas de restriction pour elle. Et mon père, en fait, il est pompier. Donc, quand la guerre a éclaté, nous avons réussi de fuir de Kherson, mais il a refusé nos propositions de fuir. Et il a dit que moi, je suis obligé de rester parce que moi, je suis pompier, donc je suis obligé de rester pour sauver les vies des Ukrainiens qui sont là en place, qui sont obligés de vivre sous l'occupation. Parce qu'effectivement, ce n'était pas une surprise pour nous que Kherson sera occupé par les Russes. Et en fait, il a dû rester à Kherson pendant toute la période de cette occupation, donc ça veut dire jusqu'au 11 novembre 2022, c'est le jour quand Kherson a été libéré par l'armée ukrainienne. Mais malheureusement, le problème, c'est que quand les Russes ont compris qu'ils ne peuvent pas tenir la ville plus que ça, plus qu'en novembre 2022, ils ont commencé à partir de la ville pour traverser la rivière, le Dnipro, et pour se protéger, pour se garantir que les Ukrainiens ne vont pas les attaquer en traversant la rivière, ils ont enlevé plusieurs Ukrainiens civils pour ne pas donner l'occasion à l'Ukrainien pour les bombarder, pour les tuer. Donc, et malheureusement, mon père, il a été enlevé par les Russes au début novembre 2022. En fait, j'avais aucune nouvelle de mon père depuis novembre 2022 jusqu'à avril 2025. Donc, vous voyez, ça fait presque 3 ans. Il est vivant, donc on est absolument content, on est heureux. J'ai reçu un petit appel de mon père et je ne sais pas comment on peut le dire, il n'est pas prisonnier, mais en fait, il y avait tous les étudiants civils qui ont été enlevés par les Russes. Les Russes les gardent quelque part dans le sud de la région de Kherson, donc au bord de la mer, pas si loin de la Crimée. Ils ne sont pas prisonniers, mais quand même, ils n'ont pas le droit d'accès au son portable, ils n'ont pas les documents, donc ils ne peuvent pas quitter de la région, ils ne peuvent pas voyager en Russie quelque part, pas du tout. Ils ne sont pas autorisés de quitter cette petite. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû pas savoir s'il est vivant, s'il est non, parce que vous savez, avec les Russes, les règles classiques de la guerre, elles n'existent pas. Donc les règles n'existent pas du tout pour les Russes en général, et plutôt les règles des codes de la guerre. Et c'est pour ça, mon père, il m'avait donné ce petit appel en avril, juste pour nous dire, tous les membres de ma famille, que tout est bon, il est vivant. En anglais, on dit « labor prisoner ».
Je viens de la région de Tchernigiv, et donc de ville de Tchernigiv, c'est au nord d'Ukraine. Et donc, je suis née là-bas et j'ai passé mes 15 premières années là-bas. Mes parents viennent aussi de là-bas et j'ai aussi un petit frère. Voilà, donc j'ai commencé à avoir cette idée de déménagement plus tôt, de quitter, pas vraiment quitter ma famille, mais déménager pour les études, quand j'avais 13 ans peut-être. Donc, j'étais en quatrième. Et à 14 ans, donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de discussions avec ma mère et mon père que je veux commencer ma vie indépendante, ma vie d'adulte plutôt. Et ils m'ont beaucoup soutenue sur ça. Ils avaient énormément d'inquiétudes pour moi, bien sûr, mais ils savaient que je suis assez mature, assez indépendante. Et j'ai montré que déjà, je gagne de l'argent, je peux m'occuper de moi. Si au cas où, je sais cuisiner, je sais tout faire. Donc, ce n'était pas la question. Et donc, à 15 ans, après 3e, j'ai déménagé à Kyiv, avec ma meilleure amie aussi, pour vivre dans la résidence étudiante et étudier le droit. Voilà, donc j'ai passé 6 ou 7 mois à Kyiv, avant le début de la guerre. Un mois après le début de la guerre, j'ai déménagé en France, aussi seule. Mon père est militaire et il reste en Ukraine. Il est militaire de profession, donc c'est sa profession de vie. Après, ma mère et mon frère sont en Allemagne. Je m'appelle Bojena, j'ai 19 ans. Je suis arrivée en France en mars 2022. Maintenant, ça fait 2 ans que je vis en Nancy et je fais des études de droit.
Au début de la guerre, on quittait l'Ukraine. Moi, ma mère, mon frère et ma tante avec ses enfants. On est arrivé en Allemagne parce que ma tante a une collègue là-bas qui aussi propose nous rester pour quelques mois. J'ai resté là-bas pour 1 mois et après j'ai cherché pour les écoles de cinéma, les universités différentes à l'Europe et j'ai trouvé une école de cinéma à Paris et donc j'ai décidé de déménager à Paris. Et après 1 mois en Allemagne, j'ai déménagé à Paris. J'ai changé, je pense, 10 lieux d'habiter à Paris déjà. J'aime beaucoup ces villes, c'est très spécifique mais c'est très intéressant ici.
Je m'appelle Anastasia Suvorova, je viens de Kiev, d'Ukraine, j'étudie le cinéma.
Ma famille est restée en Allemagne pour 3 ans, ma mère et mon frère. Et l'automne, ma mère et mon frère sont retournés à Kiev. C'est mars, ma mère est décédée et maintenant mon petit frère habite avec mon père à Kiev.
Ma mère
à la crise cardiaque. C'est pas une raison de la guerre, mais depuis le début de la guerre, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tension pour elle pendant l'immigration, être réfugiée, être une mère seule pour mon petit frère. Avec la guerre, avec les actualités, avec toutes les attaques à Kiev, tout ce stress s'est bien sûr influencé.
Ходять хлопці на сторонці, хто під полем, хто під сонцем, хто помер, а хто іще живий. Сидять дівки під віконцем, та своїх чекають хлопців, кого з війська, кого з тюрми.
Je m'appelle Boris Solovyov, je suis ukrainienne, je viens de Kherson et j'ai 28 ans. Non, absolument russe, donc c'était pas facile au début de la guerre en Ukraine. C'était absolument pas facile parce que tout le monde a bien pensé qu'un voilà, peut-être c'est un spion de Solovyov qui est propagandiste russe, qui est là. Donc c'était, oui, c'était pas drôle ça, au début de la guerre. Mais bon. En fait, on toujours dit que le droit, c'est la meilleure arme ou la meilleure défense contre la guerre ou contre tous les types de conflits. Donc c'est pour ça, je pense que mes études en droit là étaient absolument enrichissantes parce que moi, j'ai autre sensation du mot droit, du mot justice. C'est pas le même mot comme avant le début de la guerre pour moi. C'est la raison pour laquelle je comprends un peu mieux pourquoi on a besoin de droit dans la société. Pourquoi on a besoin des règles pour être capable de résoudre les conflits dans la manière civilisée. Donc, les Russes ne le comprennent pas. Le mot civilisation, ça n'existe pas en Russie. Peut-être dans le dictionnaire, on ne va pas le trouver. Mais dehors la Russie, c'est toujours pour nous les règles qu'il faut respecter. Donc, c'est pour ça, je pense que c'est la révolution en 2013-2014 en Ukraine qui m'a vraiment poussé vers cette filière droit. Et puis, c'est la guerre qui m'a bien rappelé que voilà, c'est ça la raison pour laquelle c'est important d'être juriste, c'est ça la raison pour laquelle c'est important d'avoir les connaissances en droit, pas que pour les juristes, mais pour tout le monde, pour être capable de bien distinguer entre quelque chose de bon et quelque chose de mauvais, quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux. Donc je pense que c'est plutôt ça, cette raison qui m'a beaucoup poussé aussi vers cette excellence juridique dans ma vie académique ou ma vie professionnelle.
Канікули з ребятками.
А, дома. Чудово, але така була драма через того родову.
Розкажи потім.
Ось, тому це. Як дорога взагалі? Ви доїхали нормально?
Ой, дорога ужасно. Прекрасно.
В Україні дуже хорошо.
Je m'appelle Alexandra, mais vous pouvez dire Sacha, parce qu'en Ukraine, Sacha, c'est la courte forme d'Alexandra. Je suis 22 ans et j'habitais en Ukraine à Tchernivtsi, c'est la ville qui est plus proche de la frontière de la Roumanie. Et maintenant, je suis en France depuis avril 2022.
Je m'appelle Ola, j'ai 21 ans. Je viens de Kiev, c'est la capitale d'Ukraine. Et moi, je suis en France depuis avril 2022.
Donc, pour le moment, je travaille en projet européen qui s'appelle EdgeSkill. Ça contient beaucoup, beaucoup de pays. Et donc, EdgeSkill, il veut réduire les fosses de compétences numériques à travers l'Europe. Et donc, je travaille en cadre de ce projet à partie qui s'appelle Prometheus X.
En fait, c'est un peu bizarre parce que depuis tout le début, quand j'ai arrivé ici en stage, je ne pouvais pas accepter, ou je ne sais pas, je ne pensais pas du tout que la guerre ne va pas finir super vite. Donc moi, j'étais avec très bonne relation avec mes colocataires en résidence universitaire là-bas. Et j'ai dit, oh, je pars en France pour stage, mais t'inquiète pas, 5 mois, je vais retourner, on va continuer nos études. Et vraiment, je pensais ça et c'était super intéressant pour moi. J'ai eu beaucoup de changements, beaucoup d'événements différents. J'ai rencontré beaucoup de gens et moi j'aime bien raconter des histoires pour mes amis ou juste en général, et j'ai même écrit tous les points intéressants, toutes les histoires pour pas oublier de dire à mes colocs. Mais quand cette stage était fini, 5 mois passés, j'ai compris, ok, la guerre elle est pas finie, je peux pas retourner. Ce qu'on va faire après. Et après, on a eu chance d'être accepté en 3e année de licence. Et je pensais, OK, 1 année de licence, et après ça, c'est fini. Et après, on va retourner et continuer en Ukraine, en Kiev. Mais non, c'était pas fini aussi. Et juste, je crois, quand on a commencé notre master, c'était le moment quand je pensais, OK, peut-être que ça va pas être si vite quand j'ai pensé. Et je sais pas, ça m'a pris plusieurs mois et peut-être même années pour accepter que je ne vais pas retourner en Ukraine si vite que je pensais. C'est vraiment, c'est un peu bizarre de penser comme ça.
Quand la guerre est arrivée, pour moi et pour la plupart des Ukrainiens, c'est vide. On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Donc on a eu la vie et on se lève le matin et c'est la vie qui est absolument détruite. Il n'y a absolument rien. C'est vraiment cette ambiance de c'est vide quand on n'imagine pas qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit aller au travail? Est-ce qu'on doit ranger les choses? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a cette situation quand on n'arrive pas à imaginer nos futurs. Et là, c'est vraiment douloureux. C'est vraiment hyper difficile à comprendre comment on peut naviguer nos vies si on n'a pas de direction, en fait. Effectivement, on était tous réunis à cause de la guerre, parce qu'on a eu un ennemi, et il fallait bien faire le mieux possible pour soutenir les armées ukrainiennes, les soldats ukrainiens, pour devenir un volontaire, pour aider aux gens qui sont réfugiés, qui sont restés sans absolument rien. Donc c'était ça le but déjà, mais c'était pas si facile pour tous les gens de se retrouver dans la vie. Et c'est pour ça, je pense qu'en fait, c'est la musique qui m'a sauvé, parce que nous avons fui de Kherson le premier jour de la guerre, le 24 février 2022, et puis on se retrouve dans une petite ville dans l'ouest de l'Ukraine, parce qu'effectivement on est très loin de la frontière avec la Russie, donc c'était l'endroit le plus safe depuis le début de la guerre. Et moi, quand je me suis dit qu'OK, il faut absolument que je m'occupe de quelque chose, j'ai trouvé une petite école de la musique dans cette petite ville où il y avait une classe de violoncelle. Donc j'ai pu utiliser un violoncelle à cette école pour jouer, pour m'entraîner un peu. Et puis, quelques jours après, j'ai eu la discussion avec la directrice de cette école musicale qui était absolument gentille et adorable. Elle m'avait dit que, Boris, vous savez, est-ce que vous pensez que peut-être vous pouvez enseigner violoncelle pour les élèves des classes de violoncelle qui sont toujours là, qui ne sont pas partis? Ça serait vraiment très gentil de votre côté. Si vous pouvez donner la chance de continuer ces études musicales aussi jusqu'à mai. Et je disais qu'absolument, c'est presque mon métier d'être prof de tout, soit prof de droit, soit prof de la musique. C'est pas pareil, mais c'est presque la même chose. Et je pense qu'en fait, c'est ça qui m'a sauvé. Donc, c'est l'occasion d'aider aux auteurs. Donc, c'est l'occasion de partager ses connaissances et ses compétences avec quelqu'un, comme c'était avec les étudiants de violoncelle. Et puis, c'était la musique, en fait. C'est que j'ai pu jouer, j'ai pu être utile dans la façon spécifique, mais quand même, j'ai pu être utile. J'imagine pas que j'ai pu être un bon soldat, mais quand même, c'était important pour moi de comprendre qu'en fait, j'arrive à faire quelque chose pour mon pays. Et je pense que pour tous les Ukrainiens, c'était l'étape la plus difficile à bien comprendre qu'est-ce qui va nous stimuler de s'élever le matin. Parce que c'est vraiment ce vide qui existe partout quand on a des actualités qui ne sont pas du tout prometteuses pendant les premiers mois de la guerre et on a vraiment peur qu'on puisse perdre notre état. Donc c'est ça le peur qui est vraiment le plus difficile à imaginer, je trouve.
À Paris, j'ai fait mon premier court-métrage, The Freak. C'est le film de 9 minutes. Il parle de l'histoire d'une fille ukrainienne qui souffre avec les problèmes de heart crisis, avec les problèmes complexes avec sa sœur. Elle doit préparer son peinture pour exposition, mais c'est très difficile pour elle en raison de dépression. Et donc, c'était mon premier court-métrage. Je pense que c'est pas mal, mais je voudrais changer beaucoup de choses maintenant parce que je voudrais changer un petit peu le décor, la façon comment j'ai travaillé avec les acteurs, le dialogue. Mais c'est renforcer mon désir de faire le cinéma mon métier.
L'écriture, c'est quelque chose qui était avec moi depuis que je me souviens de moi-même, en fait. Quand j'étais enfant, je tenais un journal. Maintenant, je le lis, c'est comique, mais j'écrivais. J'écrivais avant la guerre et je participais au concours littéraire en Ukraine. Mais la guerre a profondément et drastiquement changé mon style. Avant la guerre, j'écrivais des choses assez élégantes, avec des vers alexandrins. Je pouvais me permettre cette belle littérature. Avec la guerre, c'est devenu un vers libre, très rompu, très, on va dire, sans rime ni rien. C'est juste des éclats de mes sensations, de mes sentiments, de ce que je ressens là en ce moment, et rien de plus. Avec la guerre aussi, j'ai commencé à beaucoup écrire de la prose. En 2023, oui, c'était l'année, j'ai participé au concours français, concours de nouvelles. J'ai écrit une nouvelle, qui parlait de l'occupation de Boutcha, si vous connaissez. Et j'étais demi-finaliste de ce concours. Ces 10 pages que j'ai produites m'ont déchiré le cœur hein, parce que j'ai lu les témoignages de victimes de Boutcha. J'ai pu parler à une personne qui a survécu cette occupation et j'avais des larmes aux yeux. Avec chaque mot que j'écrivais, j'avais beaucoup, de plus en plus des larmes et je pleurais et j'écrivais et ça a duré 3 jours. Après que j'ai écrit ça, je me suis dit « Non, la littérature, elle ne doit pas être belle. Elle doit avoir un sens, elle doit avoir un message. » Et écrire cette horreur, c'est aussi une façon de raconter cette guerre. Parce que même si c'est horrible, même si c'est affreux ce que j'ai écrit, parce qu'il y avait une scène de viol, il y avait les scènes de meurtre, mais il fallait l'écrire, parce que c'est la réalité. C'était comme ça. M'en souvenir, ne pas pardonner et m'en souvenir, parce que cette guerre, c'est pas quelque chose qui est apparu le 24 février 2022, c'est quelque chose qui dure déjà depuis 3 siècles. Donc, c'est le souvenir nécessaire pour pouvoir construire l'avenir de l'Ukraine, pour qu'il soit indépendant de la Russie et pour qu'il soit libéral, européen et pour qu'il soit centré sur l'Ukraine sur la culture ukrainienne et pas sur les oppressions russes et la russification qui durait depuis des siècles.
Si je fais quelque chose, je toujours essaie de le faire le mieux possible parce que sinon, je vois aucun sens de faire quelque chose, de commencer tous les projets que je fais. Et en fait, en Ukraine, j'étais diplômé dans le meilleur fac de l'Ukraine. Donc, c'était le meilleur fac, c'était l'Université nationale de Taras Shevchenko de Kiev. C'était le plus difficile à entrer à cette université à l'école de droit. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini toutes mes études, licence en droit et master en droit avec mention très bien. Donc, et c'était déjà une étape la plus importante pour moi qui, en fait, voilà, j'ai pu le faire parce que moi, je suis du Kherson, de cette petite ville au sud de l'Ukraine qui est loin du capital. Donc, c'est pour ça que c'était déjà une grande étape d'excellence, de se faire confiance, de faire confiance à moi-même. Et puis, en fait, quand je suis arrivé en France, je me suis dit que maintenant, à cause de la guerre, je vois qu'il n'y a absolument aucune limite pour cet avancement académique, pour cette excellence académique et excellence professionnelle aussi. Donc, moi, je pensais toujours que j'ai déjà fait tout ce que je voulais, tout ce que j'ai voulu faire en Ukraine. Puis, je suis arrivé en France et j'ai compris que maintenant, je peux faire déjà mieux que avant.
Le 12 janvier 2023, à Paris, j'ai appris qu'un de mes camarades de classe s'est engagé dans l'armée. Il vient d'avoir 18 ans. Il n'a rien vu ni connu dans la vie et maintenant, elle peut s'arrêter à tout moment. Je n'imagine même pas ce que sa mère doit vivre en ce moment. Mais je comprends parfaitement sa décision. J'avais la même envie au début de la guerre. Parfois, je me dis que je ne devrais peut-être pas être là, à Paris. Que ce serait plus juste, si on peut le dire, d'être au front. Peut-être parce que je pourrais me battre, mais au moins pour faire peut-être la médecine, pour être à l'endroit où on a besoin de moi, pour être là où je pourrais en quelque sorte lutter pour l'avenir de mon pays. Et pourtant, en même temps, j'ai peur de la mort. Je me rends compte que la vie vaut la peine d'être vécue et que je ne suis pas tout à fait prête à la donner, malgré tout mon amour pour l'Ukraine. Quand j'y pense, je commence à culpabiliser, car je n'ai littéralement rien fait pour mon pays en comparaison avec ceux qui restent là-bas et qui se battent. Cela me déstabilise profondément. Je suis coincée entre l'Ukraine et la France, entre la guerre et la paix. Je ne sais pas où j'appartiens. J'appartiens donc nulle part.
En fait, concernant ma dépression, c'est une histoire assez longue qui vient peut-être dès l'adolescence, dès mes 13-14 ans, parce que c'est pas vraiment la faute de ma famille ou de mes parents, non, pas du tout, c'est aussi la société, parce que j'ai grandi dans une pression, plutôt d'être toujours meilleure, d'avoir des meilleurs noms, d'être parfaite. Je suis le premier enfant et le premier petit enfant de ma famille, donc je devais être vraiment un bon exemple de ma famille. C'est pas vraiment négatif pour moi, il y a beaucoup d'avantages de cette éducation, mais ensuite, j'ai commencé à me mettre énormément de pression moi-même. Donc, je suis quelqu'un qui n'est pas vraiment très léger et très simple avec moi-même. Avec les autres, je suis patiente, je suis à l'écoute, mais avec moi-même, non. Je suis assez dure avec moi-même. Donc, j'avais énormément d'ambition, énormément de rêves, des objectifs, et je n'arrivais pas à les réaliser tout de suite comme je voulais, parce que je suis très impatiente. Et donc je travaillais énormément. Je voulais travailler encore plus, donner encore plus de cours particuliers, donc d'apprendre le français aux autres, d'enseigner le français aux autres, et gagner de l'argent ensuite, être toujours parfaite, avoir des meilleures notes à l'université, et en fait et avoir aussi la vie sociale, et aider aussi mes parents et mon frère. Donc c'est à cause de ça que je peux tomber dans cette dépression, parce que je n'avais pas du tout le temps et de l'envie de me reposer. Pour moi, me reposer, c'était honteux. Voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée dans la dépression assez profonde l'année dernière. Et j'ai dû prendre les antidépresseurs. Ça fait un an que je les prends. Je vais les arrêter parce que ça va beaucoup mieux. Et aussi, pendant un bon moment, j'ai refusé que j'ai un problème. Tout simplement ça. Ça peut arrêter beaucoup d'années avant, mais j'ai juste refusé de demander de l'aide aux professionnels. Voilà.
Je m'appelle Elisaveta, mais tout le monde dit Lisa parce que c'est notre terme plus quotidien. Et Elisaveta, c'est formel. J'ai 21 ans, je suis en aimant miège à l'Université de Lorraine. Quand tu viens en Ukraine, tu vois que la vie continue. Les gens, ils continuent de tomber amoureux, ils continuent d'avoir des enfants, ils continuent de profiter de la vie. C'est bizarre, mais c'est notre vie. On a au même endroit, on a quelqu'un qui peut se balader, profiter d'été avec son chien, et à côté, il y aura la maison qui sera détruite. On n'ignore pas l'un avec l'autre, mais c'est juste que la guerre, elle force de profiter plus de notre vie. Parce qu'on ne sait pas est-ce qu'on a encore des jours, combien de jours il reste, et est-ce qu'on sera vivant lendemain. C'est pourquoi on profite encore plus et on comprend la valeur de vie encore plus.
Moi, je veux faire enfant en futur. Je dois avoir un travail stable, je dois avoir un appartement bien sûr, et je dois être sûre dans mon home qu'il va faire bon père et des choses comme ça. Mais pour moi, je veux avoir 3 enfants. Oui. Je me souviens, j'étais dans la maison d'autre homme qui est maintenant mort, et il m'a dit que tu dois souvenir ce moment, cet été, ces nuits, c'est très chaud, le вогонь палає, і оце от, знаєте, коли дерево отак от аж дзвонить, тріска, як це сказати? Quand ce sera l'hiver, tu dois te souvenir de ce moment et penser que c'était très bien. Et donc, pour le moment, toujours, tous les jours, pas juste en hiver, je pense de ça.
Pour moi, ce souvenir, je crois qu'il est assez récent. C'était pendant l'hiver en 2021-2022. Je crois que c'était décembre 2021. Donc, c'était deuxième année de l'université. J'étais en résidence universitaire avec mes amis. Je me rappelle, je ne sais pas, peut-être 2 jours, j'ai fini mon thèse d'année. En Ukraine, on a assez grande thèse chaque année des études à faire, à présenter et faire aussi un code et tout ça. Et j'ai eu pas beaucoup de temps, je me rappelle, j'ai travaillé beaucoup. Et c'était le soir où on a eu vraiment beaucoup de neige. C'est tombé, tombé, tombé. C'était vraiment agréable. Et tous mes amis de mon chambre, mes colocs, et aussi autres amis qui on a eu dans cette résidence, ils sont pensés, OK, on va aller acheter cette serpent de Noël. C'est pas si loin, on va aller et retourner. Et moi, je dis, OK, d'accord, je vais reposer un peu, je vais faire un petit tour avec vous et je vais retourner. Mais on a aussi beaucoup de neige. On a commencé à jouer boule de neige, je sais pas à quel moment là, mais c'était si amusant, si agréable. Je crois que même quand j'étais petite, j'ai eu pas ce moment là. On a passé, je sais pas, peut-être 4 heures dehors, jouer tout ça, on était 8. On était 8, oui, on a fait les batailles, tout ça, c'était incroyable. Et l'année, je l'ai commencé à s'étamper, c'était vraiment... je me rappelle quand j'étais si heureux à ce moment-là, avec tous mes amis, on était si, tout froid, on était tout mouillé, tout super heureux, c'était incroyable ce moment-là. Et on a passé... C'était vraiment, c'est fait... Je crois que c'était juste quelques semaines avant la guerre. C'était un bon moment tous ensemble, et ça, mais vraiment, c'est resté avec moi. Oui, mais maintenant, parfois, je me rappelle de ça, j'ai dit, oh, c'était super, cette soirée-là. Oui.
Je vais vous dire quelques phrases d'une chanson d'un artiste qui s'appelle Skrebin. C'est une personne hyper populaire à l'Ukraine qui, malheureusement, est mort en 2015. Mais c'était, je pense, un des plus populaires artistes ukrainiens qui chantait qu'en ukrainien depuis les années 90. qui est très importante. Et cette chanson, qui s'appelle Sanya Druh, il parle du manque d'un ami. Il contient des phrases qui me rappellent de la migration. Parce que là, elle parle que le Scrabin, il veut retourner dans sa ville natale avec son ami. Et pourquoi je l'ai choisi? Parce que j'habitais aussi dans la petite ville et je rêvais de le quitter un jour. Et bien sûr, par rapport à Paris, il y a plus de possibilités, mais après 3 ans, je pense, je me manque aussi de mon petite ville. Alors en ukrainien, je vais vous dire 2 phrases. У 4, он вера. Давай повернемось у своє місто, з якого втікнути ми так хотіли. Давай вдягнемо потерті джинси, яких у школу нас не пустили.
Partir là où tout le monde parle une langue que je ne parle pas ou que je maîtrise à peine, peu importe, là où les gens ne comprendront jamais ma personnalité. Et oui, essayer certes, mais cela serait trop compliqué car on n'a pas de langue commune. Partir là où je pourrais faire des blagues parce que c'est trop ridicule pour ces gens-là. Là où je vais entendre constamment que nous sommes trop différents. Et cela serait vrai. Partir là où les regards ambigus vont m'accompagner à la sortie. Là où je serai obligée de m'expliquer. Non, ce n'est pas la même langue. Bien sûr qu'on a l'Instagram. Oui, ça fait peur la guerre. Peut-être là où presque toujours, à la place d'une réponse, tu entendras « D'où vient ce petit accent ?» Mieux vaut ne pas le dire. Parce que, pour ne pas avoir à m'expliquer. Partir là où je serai toujours étrangère, toujours étrange et fort souvent incomprise. Partir là où la guerre sera ton problème personnel, ton dérangement temporaire ou ta douleur dont il ne faut pas parler en public. Partir, rester, mourir parce que tu n'es pas parti, souffrir parce que tu es resté.
Avec Bojena Solonets, Boris Soloviov, Uliana Chegets, Maria Kucher, Ola Leinik, Oleksandra Kuksa, Andriy, Mikola, Oleksandr, Anastasia Suvorova. Remerciements particuliers et chaleureux à Nikita Sidorenko. Merci à l'Association des étudiants ukrainiens Nos étudiants en France, à l'Université Paris-Dauphine, à Marie Baron, au Laboratoire Lorrain de recherche en informatique et ses applications, à Nancy, la Cité universitaire à Paris, la Cité universitaire Résidence Montbois à Nancy, la SARL Atomique Paris, Marianne Dautret, Jean-Marc Laforge, Emmanuel Laurentin. Prise de son, Laurent César, Lucien Lefebvre, Hélène Langlois. Mixage, Antoine Viossa. L'expérience, Aurélie Charon et Inès Duperron. Petite Ukraina, une émission de Johanna Krudinska, réalisée par Franck Lilin.